Les années-lumière, édition du 28 février 2010. Guérison spontanée, est-ce que la religion est la seule explication ? Bonjour, ici Yannick Villieu, l'équipe. Bienvenue à cette nouvelle édition du magazine d'actualité et de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. Alors, cette grande question sur les guérisons spontanées, Gaëlle Lucia Berdou, c'est vous qui allez la poser.
Eh oui, puisque le frère André Yannick sera canonisé grâce à ses miracles, mais il n'y a pas que dans les églises qu'on fait des miracles, évidemment, ça se produit aussi dans les hôpitaux, Yannick.
Chantal de Srivastava, vous allez nous expliquer que les fourmis aussi se cachent pour mourir.
La grande question, Yannick, c'est de savoir pourquoi et peut-être surtout comment les fourmis savent que le temps est venu de quitter le nid parce que la mort approche.
Il y aura ensuite le courrier des années-lumière, une question sur la vie intelligente extraterrestre. Puis la chronique des années-lumière cette semaine, Rachel Légère nous explique que l'écureuil gris qui envahit nos villes et nos poubelles parfois a aussi un rôle écologique positif. Deuxième heure, Sophie-André Blandin, vous allez nous expliquer que l'écriture, je dis bien, remonterait à plus de 30 000 ans, en quelque sorte, que nos ancêtres faisaient peut-être déjà des fautes d'orthographe.
Oui, nos très lointains ancêtres s'exprimaient déjà avec des signes abstraits, les mêmes signes qu'on trouve sur les murs des grottes ornées 10, 20, 30 000 ans plus tard.
Incroyable. Après le petit journal de la science, je vais vous présenter le premier de deux volets d'une mini-série sur les soins palliatifs pédiatriques, un sujet difficile. Après quoi, Chantal, vous allez recevoir l'auteur de la semaine.
Elle s'appelle Florence Piron. Elle s'intéresse à la consultation sur les enjeux de science de notre époque. Elle viendra nous parler d'Aux sciences citoyens, publiées par l'Institut du Nouveau Monde.
Mais pour commencer donc, les miracles. Alors Rome, enfin le Vatican, a annoncé officiellement la semaine dernière la canonisation d'Alfred Besset, mieux connu sous le nom de frère André. Et ce qui lui vaudra le titre de saint, ma chère Gaëlle, c'est un talent que certains médecins souhaiteraient sûrement avoir, c'est-à-dire la capacité de guérir des malades qu'on croirait voués une mort certaine.
Ceux pour qui on ne sait plus quoi faire. Et oui, l'humble portier du collège Notre-Dame à Montréal qui faisait des tournées le soir pour frotter des malades avec son huile de Saint-Joseph et prier avec eux avait rapidement fait parler de lui à l'époque, de ce que certains considéraient comme un don de Dieu. Et parmi les milliers de personnes qui ont défilé devant lui et surtout devant sa dépouille depuis sa mort en 1937, eh bien l'Église a confirmé deux guérisons, deux miracles. L'un qui remonte à 1958 qui a permis sa béatification en 82 et le second, qui est gardé secret pour préserver l'anonymat du miraculé, a permis sa canonisation annoncée la semaine dernière. Alors, je suis allée à l'oratoire Saint-Joseph, fondé par le frère André, pour discuter du phénomène frère André avec le père Jean-Guy Vincent. Je vous propose donc une petite visite de ce lieu saint.
Bien, ici, nous sommes dans ce qu'on appelle la chapelle votive, chapelle de demande, où les gens font des demandes de guérison ou de demandes de toutes sortes, mais surtout beaucoup de guérison. Et nous sommes entourés d'instruments orthopédiques, béquilles, cannes, qui manifestent la reconnaissance que des gens ont eue après avoir été guéris par l'intercession du frère André et de Saint-Joseph. Mais celles que nous voyons présentement ici autour de moi ne sont uniquement que du temps du frère André. Et vous voyez qu'il y en a beaucoup. C'est qu'on n'a pas voulu après les exposer. On en reçoit toujours. Il y a encore des gens qui nous envoient leur béquille ou leur canne et pour manifester leur reconnaissance par rapport à ce qu'ils croient avoir été une guérison, dans leur cas, du frère André.
Alors, il y a un miracle dont on peut parler, qu'on peut raconter, qui est attribué au frère André, du moins officiellement. C'est la guérison d'un New-Yorkais qui s'appelle Joe Odino.
C'est ça. Il portait un nom, on pourrait dire, privilégié ou de prédestiné.
Joseph,
c'est ça. Il s'appelait Joseph Odino. C'est un monsieur qui vient de Rochester, dans l'État de New York, qui était venu ici par hasard. C'est un homme qui était atteint d'un cancer en 1958. Et lui avait 38 ans. Un cancer qui avait commencé par un cancer du foie, et le cancer s'était généralisé, mais il pouvait encore un peu voyager. Puis il était venu à Montréal ici, mais pas pour venir en dortoir. Il était dans un hôtel.
Il était ici, même à la Sainte-Anne-de-Beaupré, par
exemple. Aussi, auparavant. Et on lui a suggéré, quelqu'un lui a suggéré de venir ici à l'oratoire Saint-Joseph, de prier le frère André.
Et pas n'importe qui, le portier de l'hôtel, dit-on.
Justement. Ben oui, c'est bon, lui-même était portier, le frère André. Donc, il est venu ici, il s'est recueilli au tombeau du frère André. Déjà, il s'est senti beaucoup mieux. Et en retournant chez lui, il se sentait vraiment mieux. Il va voir son médecin. Le médecin constate qu'il n'y a plus de cancer. Alors, lui, il demande, mais qu'est-ce que vous avez fait? Il dit, il est allé prier à l'oratoire Saint-Joseph. Et son médecin est un juif. C'était pas un catholique.
Qui ne croit pas au miracle.
Ben non. Alors, mais il a accepté de participer au procès que l'on fait généralement pour ça. D'ailleurs, on fait toujours un procès. Il y a des gens qui témoignent et tout ça. Puis, lui a témoigné que ce qui s'était passé dépassait la science médicale. C'est pas uniquement les soins qu'il a reçus. Il y a eu une intervention qu'on ne peut pas... Les autres ne disaient pas que c'était une intervention nécessairement du ciel. Mais, en tout cas, c'était inexplicable.
C'était le père Jean-Guy Vincent. Donc, Gaël, c'est pas facile de devenir un miraculé, hein?
Et non, c'est devenu un processus long et très pointilleux que la reconnaissance d'un miracle. Le père Vincent parlait de procès. En fait, ça se passe vraiment un peu comme ça. Les cas sont présentés et défendus devant une sorte de jury. Mm-hmm. D'ailleurs, celui qui joue le rôle du procureur, c'est l'avocat du diable, littéralement, c'est comme ça qu'il s'appelle.
Et
le Vatican a sa propre commission médicale avec des spécialistes qui se penchent sur chaque cas, vérifient si la médecine dans l'état actuelle des connaissances peut expliquer ou non la guérison dont il est question.
Et effectivement, donc la médecine, même si elle progresse sans arrêt, on le sait, reste quand même sans réponse devant certaines rémissions.
Oui, oui, absolument. Oui. L'Église catholique n'a pas le monopole du miracle, pourrait-on dire. Les médecins aussi doivent parfois accepter le mystère et qui sait tirer des enseignements, des fois. C'est ce qu'essaie de faire le docteur Gerald Battiste, qui est directeur du département d'oncologie à l'Université McGill. Je l'ai rencontré à l'Hôpital général juif de Montréal, où il travaille. Il m'a raconté plusieurs de ses histoires de rémission ou de guérison spontanée, inexpliquée, de miracles médicaux, si vous voulez, des cas dont il se souvient comme si c'était hier et qu'il ne s'explique toujours pas, dont celui d'une patiente qui l'a particulièrement marqué. On l'écoute.
J'ai vu une jeune madame il y a 25 ans avec un cancer colorectal métastatique et j'ai documenté les métastases avec des biopsies. Et pendant des années, depuis cette expérience, j'ai révisé plusieurs fois les lames de pathologie pour être certain pour moi-même que c'était vraiment une tumeur métastatique. Je l'ai traitée avec la chimiothérapie et elle a répondu au traitement, mais on n'a jamais guéri des patients avec des métastases, cancer colorectal. Ça approche 30 ans maintenant. Elle me visite maintenant pour une surveillance, mais à l'époque, elle a visité la clinique avec sa fille qui avait 3 ou 4 ans, assassinée à sa côté pendant la chimiothérapie. Maintenant, une femme de 30 ans qui visite avec sa mère, qui est en forme et guérie. C'est inexplicable, à mon avis, selon ce qu'on voit habituellement en oncologie. Et c'est à expliquer. Ça, c'est le but de recherche, pourquoi ça arrive dans certains patients et pas dans la plupart.
Est-ce que vous avez déjà pris la peine de publier ces cas-là?
Non. De temps en temps, je l'ai décrit aux collègues qui ont eu leur propre expérience avec cette affaire. Je n'imagine pas que ça sera facile à publier parce qu'on ne peut pas expliquer exactement ce qui est arrivé.
Est-ce que vous êtes capable d'évaluer sur le nombre de patients que vous avez vus dans votre carrière la proportion ou la probabilité d'une telle guérison inexplicable?
C'est très, très petit, la probabilité. parmi des milliers de patients, je peux raconter l'histoire de moins d'une douzaine comme telle.
Est-ce que c'est difficile pour un médecin comme vous d'accepter de ne pas comprendre pourquoi certaines choses se passent, pourquoi vos patients guérissent parfois?
Oui, c'est un peu frustrant que cet effet n'arrive plus souvent. Mais moi, comme chercheur, je le trouve très intéressant et c'est une raison de poser des questions. Si ça peut arriver dans un patient, pourquoi ne pas dans le reste des patients? Mais pour le moment, j'accepterai l'appellation de l'effet Frère-André pour l'inconnu. Et il faut continuer nos recherches pour être capable d'amener cet effet aux autres patients.
Le docteur Gérald Baptiste, donc de l'Hôpital général juif de Montréal. Alors Gaël, le docteur Baptiste parlait d'une très faible probabilité de ces rémissions spontanées. Est-ce que le frère André était plus efficace que les médecins?
Hein? C'est à peu près la question que s'est posée le sociologue Gérald Bronner, professeur à l'Université de Strasbourg et spécialiste des croyances. C'est l'auteur du livre « Coïncidence, nos représentations du hasard » dans lequel il s'intéressait au cas de Lourdes, Lourdes grand temple de la guérison. Mm-hmm. Il a comparé les miracles associés à Lourdes aux rémissions spontanées en milieu hospitalier. Et pour faire ça, il s'est basé sur un ouvrage colossal qui a été publié par des chercheurs américains qui recensaient à peu près 1500 cas de guérison inexpliquée qui ont été décrits dans des revues scientifiques sur une période d'environ 130 ans. Et avec ces données-là, Gérald Bronner s'est adonné à un peu de statistiques. Il nous présente son raisonnement.
Je me suis posé une question toute simple, en fait. C'est en effet, il y a des guérisons qui sont inexplicables du point de vue de la connaissance médicale actuelle, mais ces guérisons sont-elles, toutes choses égales par ailleurs, plus nombreuses à Lourdes, ou est-ce qu'elles sont comparables à ce qu'on peut observer dans le milieu hospitalier? Alors, il faut savoir que depuis 150 ans à peu près, qu'on voit apparaître des miracles à Lourdes, depuis 1858 très exactement, on a dénombré 67 guérisons miraculeuses authentifiées, si je puis dire, par le Vatican.
Oui, officialisées si on veut.
Ce qui peut sembler beaucoup évidemment, mais enfin il faut bien concevoir qu'en moyenne, il y a environ 6 millions de pèlerins par an. Depuis 150 ans, bon, la multiplication elle est un peu excessive parce que sans doute qu'il n'y avait pas 6 millions de pèlerins au début en 1858. Mais enfin, globalement, on peut comprendre qu'il y a un nombre totalement astronomique d'individus se sentant malades, porteurs d'une maladie grave ou non d'ailleurs, qui a fait un pèlerinage à Lourdes. Et ce que vos auditeurs doivent bien comprendre, c'est que généralement, le miraculeux devient normal à partir du moment où la taille de l'échantillon, si je puis dire, est astronomique. Pour me faire comprendre, je dirais qu'il est presque miraculeux pour un individu de gagner à la loterie. Il a, disons, une chance, par exemple, sur 50 millions. Mais s'il y a 50 millions de joueurs, il est tout à fait naturel que l'un d'entre eux gagne.
Voilà. Donc, pour vous, 67 miracles reconnus par Rome sur 6 millions d'individus qui passent par Lourdes depuis 150 ans chaque année, c'est
oui,
à peu près comme gagner à la loterie.
Ça fait à peu près 900 millions d'individus. Ben oui, ça fait à peu près 900 millions d'individus, donc c'est très, très improbable. Les cas cliniques qui sont décrits, lorsqu'on ne tient pas compte, si vous voulez, de la taille de cet échantillon gigantesque, paraissent tout à fait miraculeux. Mais le caractère miraculeux de ces guérisons ne disparaît pas, mais du moins est à rapporter au nombre d'individus qui candidatent, si je puis dire, au miracle. Il faut savoir que dans les milieux hospitaliers environ, il y a des travaux, notamment de Oregon et de Eisberg, qui se sont penchés sur les 1174 cas qu'ils ont dénombrés en 128 ans de cas miraculeux, de guérisons miraculeuses. Et si on applique à ces cas ce que j'ai fait, la grille qui est très scrupuleuse, il faut le dire, hein, la grille du Vatican pour authentifier un miracle est vraiment très scrupuleuse, il y a des commissions de médecins, etc., on obtient tout simplement en milieu médical, disons, un cas de rémission miraculeuse sur environ 350 000 cas. Ce qui n'est pas très dissemblable, loin de là même, c'est même presque favorable au milieu hospitalier, si vous voulez, c'est pas du tout dissemblable de ce que l'on observe dans les milieux sains. Il faut pas prendre ces chiffres trop au sérieux, bien entendu, mais en revanche, la mécanique qui existe derrière ces chiffres nous fait comprendre pourquoi il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a des guérisons qui ne sont pas encore expliquées par la science contemporaine, mais en tout cas, si le doigt de Dieu pointe quelque part, il pointe pas plus souvent à Lourdes que dans les hôpitaux.
Alors, est-ce que cet exercice que vous avez fait pour Lourdes serait applicable à un endroit comme chez nous, l'oratoire Saint-Joseph, où le frère André a fait, disons, des miracles, où il a guéri au moins officiellement deux personnes.
Mais effectivement, cette logique s'applique tout à fait au cas de cet individu, du frère André, tout simplement parce que à partir du moment où en 1871 il devient portier au collège de Notre-Dame et que peu à peu, par le bouche à oreille, il se dit qu'il aurait des pouvoirs de guérisseur et que la foule devient de plus en plus nombreuse. Songez que tout de même la dimension de la chapelle qu'il va construire est augmentée entre 1908 et 1912 à 4 reprises. En 1917, on construit une crypte pouvant contenir 1000 personnes et ensuite, et c'est le projet d'une des plus grandes églises du monde tout simplement qui est construite, vous dire si donc cela implique année après année des millions de personnes en fait qui viennent consulter avec l'espoir de guérir. Eh bien, une fois qu'on a considéré ces chiffres-là, on comprend que sur tout cet exercice, en effet, il a dû voir, croiser, où des millions de personnes se sont déplacées sur ce lieu, et donc, à chaque fois qu'on est confronté à un échantillon qui touche à des millions d'occurrences, on peut s'attendre à ce que l'improbable survienne.
Voilà, c'était le sociologue Gérald Bronner de l'Université de Strasbourg. Reste, Gaël, qu'au milieu de toutes ces incertitudes, il y a une certitude. Le frère André va être canonisé cette année.
Le 17 octobre, Yannick, à moins qui sait d'une intervention divine.
Gaël, je vous en prie. Merci.
Louis-André Bertrand, journaliste au site Internet des Années-Lumière. Je vous rappelle que votre magazine d'actualité et de culture scientifique est disponible sur le web à l'adresse radio-canada.ca/lumière et également en diffusion en direct sur Sirius et en flux MP3. Vous pouvez même emporter l'émission dans votre poche en vous abonnant à la balado-diffusion sur notre site Internet. Il n'y a plus d'excuses pour manquer les Années-Lumière avec Yannick Villedieu.
Jusqu'à quel point des insectes peuvent-ils faire preuve d'altruisme? Est-il possible que des fourmis, par exemple, se cachent pour mourir afin de ne pas nuire au reste de la colonie? Et qu'en est-il des autres animaux? Toutes ces questions fascinent aussi bien les scientifiques que le commun des mortels, Chantal. Et il y a une étude, une récente, qui donne un éclairage intéressant là-dessus.
Oui, une étude qui a été réalisée par une équipe allemande, Yannick, qui vient de publier ses résultats dans la revue Current Biology. Alors, ils ont observé une colonie de fourmis en laboratoire et donc ils ont découvert que les insectes quittent le nid pour s'isoler lorsque vient le temps de mourir.
Oui.
Un comportement qui, pour nous, humains que nous sommes, a quelque chose de poétique, de grave, de sombre. Un comportement qu'on attribue aussi parfois à d'autres animaux. Mais au-delà de toutes ces considérations philosophiques sur la mort, sur l'animal, comment peut-on expliquer un tel comportement? Alors, tout est une question d'évolution. C'est ce que me disait le biologiste Michel Chapuisat de l'Université de Lausanne en Suisse. Michel Chapuisat, c'est un spécialiste des fourmis et des autres insectes sociaux et il a publié dans Current Biology un texte d'analyse qui accompagne ses nouveaux résultats sur les fourmis. Il nous explique tout d'abord, plus en détail, ce que les chercheurs allemands ont pu mesurer en étudiant en laboratoire des colonies de fourmis.
Les auteurs dans ce travail se sont intéressés à ce qui se passe lorsque un individu de la société est infecté par un champignon entomopathogène, donc un champignon mortel. Et ils se sont rendus compte que, avant de mourir, ces individus, en fait, quittaient la colonie et partaient et mouraient en isolation, c'est-à-dire loin de leur partenaire. Et ils ont fait l'hypothèse que c'était, en fait, une défense pour éviter d'infecter les autres membres de la famille, si vous voulez.
Donc, il faut peut-être voir dans ce comportement une façon de minimiser les risques de transmission aux congénères, aux autres fourmis.
Alors, c'est effectivement la conclusion de cette étude, et c'est tout à fait vraisemblable. Il propose qu'un individu malade s'auto-exclue pour éviter de contaminer ses proches parents ou les autres membres de sa colonie.
Est-ce qu'il est possible, M. Chapuisat, que ce comportement en apparence altruiste soit téléguidé, si on veut, par le parasite qui contamine cette fourmi-là?
Alors, tout à fait, ça aurait été possible, parce qu'il y a beaucoup de parasites qui sont capables de manipuler leurs hôtes en leur propre faveur, hein, qui changent le comportement de l'hôte, qui leur font faire des choses aberrantes. Il y a même des parasites, des rongeurs, par exemple, qui leur enlèvent la peur du chat pour faire manger, pour que le rongeur se fasse manger. Donc là, les auteurs ont dû vérifier cette hypothèse, exclure cette hypothèse. Pour ça, ils ont fait une expérience assez élégante, c'est-à-dire qu'ils ont raccourci la vie des fourmis par un traitement expérimental mais sans parasites. Ils les ont exposées, simplement ils les ont endormies avec du gaz carbonique. Et ensuite, les fourmis se sont réveillées, elles ont survécu au traitement, mais leur durée de vie s'est trouvée réduite. Et ces fourmis qui avaient juste été exposées au CO2, mais qui étaient, si vous voulez, proches de mourir, ont aussi quitté la colonie et sont parties de la colonie. Donc c'est plus la proximité de la mort que le parasite en soi qui provoque ce départ, cette auto-exclusion des individus.
Qu'est-ce que ça nous apprend, tout ça? Est-ce que ça nous apprend que les insectes sociaux peuvent faire preuve d'altruisme? Est-ce qu'on peut aller jusqu'à tirer cette grande conclusion?
Alors, en biologie, on a un emploi un petit peu particulier d'altruisme. Effectivement, on parle d'altruisme. Il faut bien comprendre que ce n'est pas un altruisme psychologique. Ce n'est pas qu'elles souhaitent, dans leur esprit, aider frères et sœurs, par exemple, dans le cas des fourmis. Ce qu'on appelle altruisme en biologie, c'est vraiment un comportement qui est un petit peu surprenant dans la logique darwinienne. C'est un comportement qui consiste à prendre des risques ou à sacrifier sa propre survie, sa propre reproduction au profit d'autres individus. Par définition, c'est ça qu'on appelle l'altruisme. Alors, par exemple, une abeille qui vous pique et qui meurt, pour défendre la ruche, elle est altruiste au sens biologique, parce qu'elle renonce à sa propre survie pour défendre d'autres individus.
Vous dites, Monsieur Chapuisat, que ce comportement est étonnant en termes darwinien. En quoi est-ce qu'il est étonnant?
Parce qu'a priori, la biologie de l'évolution, la sélection naturelle, par exemple, favorise des individus qui survivent bien et qui se reproduisent, qui transmettent leurs gènes à la génération suivante. Donc, quand on a des individus qui prennent des risques ou qui se sacrifient, entre guillemets, pour d'autres membres de leur espèce, c'est un peu surprenant. On peut se demander comment cette caractéristique altruiste se transmet aux générations suivantes.
Est-ce qu'on a des hypothèses à cet égard-là?
Alors justement, chez les fourmis ou les abeilles ou des insectes sociaux comme ça, on a une hypothèse forte qu'on a, disons, même pu bien étudier, bien tester. On sait que les individus souvent renoncent à se reproduire, mais ils aident d'autres individus qui sont des proches parents à produire des petits. Donc si vous voulez, la fourmi ouvrière, elle se sacrifie, elle va peut-être, comme là, s'exclure de la colonie, ou bien le cas de l'abeille, elle va attaquer et mourir, mais elle défend, en gros, elle défend sa mère, et elle lui permet d'élever de nombreux frères et sœurs, qui vont transmettre des copies des mêmes gènes. Donc l'ouvrière, si vous voulez, ne se reproduit pas, mais transmet indirectement des copies de ses propres gènes à la génération suivante.
Michel Chapuisat est biologiste et professeur au département d'écologie de l'évolution à l'Université de Lausanne, en Suisse. Donc il évoquait, Monsieur Chapuisat, le fait donc qu'il existe une forme d'altruisme qu'on appelle l'altruisme biologique.
Si on veut, mais cette histoire soulève également, Yannick, une foule de questions quant à la notion de conscience de la mort chez l'animal. Alors, est-ce que les fourmis se cachent pour mourir un peu comme le feraient d'autres animaux, à commencer par les oiseaux? J'ai posé la question à Luc-Alain Giraldo, professeur au département des sciences biologiques à l'UQAM. C'est un spécialiste du comportement animal. Voici ce qu'il m'a répondu.
C'est possible qu'il y ait un fond de vrai là-dessus. Il y a beaucoup de romantisme, évidemment, parce que, par exemple, si vous observez chez les poules, qui sont des animaux, des oiseaux sociaux, une poule blessée va être attaquée par les autres poules, à mort. Et c'est un problème pour les éleveurs de poules, entre autres. Il existe aussi beaucoup d'animaux qui, lorsqu'ils sont affaiblis par la maladie, ils ne vont pas nécessairement mourir, mais ils sont affaiblis, ils ont de la fièvre, ils ne filent pas. Ces animaux-là deviennent plus vulnérables aux prédateurs. Donc, il peut très bien arriver que dans ces cas-là, les animaux se cachent. Et que malheureusement, puisqu'ils sont déjà malades, il y en a une bonne part qui meurt. Et on va interpréter ça comme ils se cachent pour mourir, mais en fait, ils se cachent pour ne pas être mangés par un prédateur ou pour ne pas être attaqués par les autres. Et peut-être que justement, ce comportement d'attaquer l'individu qui semble affaibli ou infecté, c'est peut-être une manifestation chez les vertébrés, chez les animaux, comme la poule, de quelque chose qui se manifeste autrement chez la fourmi, comme quitter le nid.
Les rites funéraires, on entend souvent parler, par exemple, dans le cas des éléphants, du fait que on aurait certains rites funéraires avec les éléphants qui meurent. On a également parlé chez les primates de mer qui traînaient leurs petits avec elles, même lorsqu'ils étaient décédés durant un certain nombre de jours. Est-ce que tout ça, ce sont des comportements anecdotiques ou vraiment des comportements qui ont une explication fondée sur la biologie?
Ils sont presque tous anecdotiques. Il n'y a pas vraiment d'études systématiques du comportement d'une mère chimpanzée avec un enfant mort parce que ça arrive pas, on veut pas le provoquer expérimentalement. Et quand ça arrive, on l'observe, on le note. Ça veut pas dire que c'est pas arrivé. Anecdotique, ça veut dire que on l'a pas étudié de manière contrôlée. Les faits sont vrais. Un chimpanzé femelle qui a un jeune qui vient d'être tué par une voisine ou un le laissera pas juste là, elle va le traîner avec elle pendant un certain bout de temps parce que je pense que ça a du bon sens de prendre le risque que l'animal puisse revenir à la vie parce qu'on même nous les humains on s'est souvent trompé sur la réelle mort de quelqu'un et on a dû en enterrer un grand nombre au Moyen Âge qui était encore vivant mais qui semblait mort et donc ce serait comme une stratégie plus sécuritaire de maintenir un attachement un certain temps avant de conclure qu'évidemment il n'y a plus de chance. Mais d'appeler ça des rituels, je pense que c'est beaucoup projeté chez les animaux. Les animaux ont des comportements par rapport à la mort. Ceux des éléphants, j'ai entendu les mêmes histoires que plusieurs ont entendues. Je trouve ça assez extraordinaire.
Des cimetières d'éléphants, entre autres, des lieux où les éléphants iraient lorsque vient le temps pour eux de mourir.
Eh bien, les éléphants sont parmi les animaux, les mammifères, qui ont des sociétés les mieux structurées, qui durent très longtemps. Donc, il est possible qu'ils aient quelque chose d'équivalent aux fourmis. Là, ça serait intéressant. Alors, passer du mythe de « il y a des cimetières d'éléphants » à « c'est l'expression d'un comportement exactement comme la fourmi qui s'en va mourir loin de la colonie sans savoir que c'est ça qu'elle fait. » Et c'est pas on ne dit pas que l'éléphant sait qu'il va mourir et qu'il s'en va, mais pas plus que quelqu'un qui se perd en s'éloignant de la maison, il l'a fait par exprès, il a juste marché puis il retrouve plus son chemin. Donc, il y a des choses comme ça qui se font. Nous, on peut constater les conséquences et essayer de formuler des hypothèses sur la fonction de ces comportements. Est-ce que c'est juste des conséquences au hasard ou est-ce qu'il y a vraiment une fonction biologique qui a évolué?
La difficulté pour les scientifiques, par contre, c'est de valider ces hypothèses-là expérimentalement. C'est pas toujours évident de le faire.
Oui, c'est pas évident de expérimentalement vouloir faire mourir des éléphants ou de dire « OK, on va faire une expérience, on prend 12 chimpanzés, celles-là, on va tuer leurs petits et on en prend 12 autres puis on leur laisse les petits. » Alors, éthiquement, c'est impossible de faire ce genre de choses-là. Ça serait à proscrire, évidemment. Donc, ça ne se fait pas et on ne peut pas étudier ça expérimentalement.
Sauf dans le cas des fourmis où là, on a pu le faire en laboratoire, facile de transposer ça au labo.
Absolument. Chez les invertébrés, les problèmes éthiques qui se posent pour l'étude de vertébrés sont beaucoup moins aigus. Alors, dans plusieurs pays, les invertébrés ne sont pas protégés par les lois sur les expériences sur les animaux. Donc, oui, on peut faire les expériences qu'on veut chez les fourmis et c'est pas moins intéressant. Ça rend le phénomène plus facile à aborder d'un point de vue expérimental.
Luc-Alain Giraldo est professeur au département des sciences biologiques à l'Université du Québec à Montréal.
Et pour conclure, Yannick, ce qu'il me disait également, et ça tout le monde s'entend là-dessus, c'est que jusqu'à preuve du contraire, les animaux n'ont pas conscience de leur mort comme nous, on pourrait l'avoir éventuellement.
Attention à l'anthropomorphisme en quelque sorte. Merci beaucoup, Chantal.
Je vous en prie.
Vous écoutez Les Années-Lumière, le magazine d'actualité de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada, à venir en deuxième heure, les soins palliatifs pédiatriques.
On a des bébés, ils sont non communicants, donc c'est toute l'évaluation de la souffrance, la douleur par exemple, très important. Et puis effectivement, si vous avez affaire à un adolescent, ben si vous imaginez simplement ce qu'on voit dans les journaux ou les films qu'ils regardent, c'est le culte du corps, c'est le culte de la performance, hein. Et puis là, ben, les traitements, la maladie, les maganes, et ils peuvent vivre ça de façon très, très différente. À se perdre, je dirais, dans la course folle de la vie, à vivre ça à 100% en prenant des risques incroyables, ou en se repliant complètement sur eux-mêmes pour que plus personne ne les voit.
«
ça, c'est en deuxième heure, mais en attendant, c'est l'heure du facteur, le facteur qui nous a laissé la question suivante.
Bonjour, mon nom est Stéphane. Ma question est, lorsque nos radiotélescopes balaient le ciel à la recherche d'éventuelles vies extraterrestres, pour que l'on puisse les entendre, devons-nous absolument orienter nos radiotélescopes vers la planète où nous doutons la vie? Et elle aussi doit faire de même, sinon on ne trouvera pas de confirmation de vie intelligente. Ou il est certain que si ces êtres auraient des satellites alentour de leur planète ou de possibles vaisseaux spatiaux, il est assuré que nous les entendrions, étant donné que l'on peut entendre à des centaines d'années-lumière de certaines fréquences d'étoiles. Et autre question, si ça fait 50 années que l'on recherche la vie dans l'espace avec nos radiotélescopes, est-ce que ça veut dire que nous avons seulement observé une partie de la Voie lactée de 50 années-lumière à la ronde, si nos fréquences se déplacent à la vitesse de la lumière?
Bonne question, hein? En tout cas, pour répondre à notre auditeur, Sophie-André Blondin a joint Yvan Dutille, qui est membre du groupe de travail sur la recherche d'intelligence extraterrestre de l'Académie internationale d'astronautique. Alors, pour détecter les signaux d'éventuels extraterrestres, doit-on pointer précisément les radiotélescopes vers la source?
Malheureusement, oui. C'est une question de sensibilité. Pour avoir un maximum de sensibilité, il faut couvrir une petite région du ciel. L'alternative, c'est d'observer tout le ciel le plus largement possible, mais là, on perd en sensibilité. Alors, la solution qui a été imaginée par les radioastronomes, c'est d'utiliser une quantité énorme de petites antennes qui couvrent une grande surface du ciel individuellement et de combiner les signaux de ces antennes-là pour obtenir la sensibilité désirée. Le prix à payer, c'est d'avoir énormément de puissance de calcul pour combiner ces antennes-là ensemble.
Et là, quand on parle de sensibilité, c'est qu'on écoute, on est à la recherche de quelque chose qui se distingue du bruit. Qu'est-ce qu'on cherche?
On cherche des signaux, évidemment, artificiels, donc on est capable de discerner des signaux naturels du ciel. L'autre chose aussi, c'est que jusqu'ici, là, l'hypothèse qu'on fait, c'est que les extraterrestres nous aident et nous envoient des signaux radio eux-mêmes. Parce que notre sensibilité actuelle ne nous permet pas de détecter ce qu'on appelle des fuites normales d'une civilisation. Dans notre cas, c'est les radars militaires et les radars météorologiques et pour l'aviation. On n'a pas la sensibilité encore pour que ça soit allé à des distances raisonnables. On va l'avoir d'ici 10 à 15 ans avec la nouvelle génération de radiotélescopes qui va permettre de détecter des radars météorologiques jusqu'à une cinquantaine d'années-lumière et des radars militaires ou des radars météorologiques un peu plus puissants jusqu'à des centaines d'années-lumière.
Parce que pour l'instant, ce que vous dites, c'est qu'on ne peut détecter qu'un signal assez puissant qui serait directement dirigé vers nous.
Oui, effectivement. Donc, ça prend des extraterrestres qui collaborent, qui ont de grosses antennes avec des émetteurs radio, là, typiquement de l'ordre du mégawatt, là. Donc, c'est pas sur Terre, on en a trois comme ça, puis on les utilise pas pour les applications de recherche d'intelligence extraterrestre, mais essentiellement pour faire ce qu'on appelle de la radar astronomie.
Alors, ça fait partie aussi des questions de notre auditeur. Est-ce qu'on ne peut pas, donc, détecter les satellites qui tourneraient autour d'une planète éventuellement habitée par une intelligence extraterrestre?
Surprenamment, les satellites n'émettent pas tant de signaux que ça. Premièrement, ils visent la Terre, hein? La plupart du temps, les satellites visent la Terre et c'est des émetteurs de faible puissance parce que les satellites n'ont pas accès à de grandes capacités électriques en orbite. Vous comprenez que c'est alimenté par des panneaux solaires. Et nous, quand on communique du bas vers le haut, comme on peut se permettre d'avoir des grandes antennes, les signaux ne sont pas si puissants que ça non plus. Donc, ce n'est pas une source de bruit importante radio. Sur Terre, à l'heure actuelle, comme je disais, il y a les radars militaires, les radars météorologiques et une des fuites de radio qu'on a, c'est les postes de télévision analogiques qui sont en train de disparaître.
Alors, ça serait la même chose pour les satellites qui tourneraient autour d'une autre planète?
Oui, parce qu'ils ont les mêmes contraintes physiques et technologiques que nous, on a en termes d'efficacité d'utilisation de l'énergie, entre autres, parce qu'on suppose que les extraterrestres sont intelligents et ils gaspillent pas leur énergie inutilement.
Troisième volet de la question de notre auditeur, ça fait 50 ans qu'on recherche la vie dans l'espace avec ces radiotélescopes. Est-ce que ça veut dire qu'on a seulement observé une partie de la Voie lactée de 50 années-lumière?
En fait, ça marche dans l'autre sens. C'est que ça fait 50 ans à peu près qu'on émet beaucoup d'ondes radio, donc il y a une sphère d'une cinquantaine d'années-lumière qui a été illuminée par nos radars et nos postes de télévision. Par contre, nous, on n'est pas limité par cette distance-là parce qu'on peut observer à des distances beaucoup plus grandes. Mettons qu'une civilisation extraterrestre qui aurait 500 ans, ben on peut la détecter jusqu'à 500 années-lumière de nous. Donc, ce n'est pas un facteur limitatif pour la distance comme telle, cette durée de vie là, de nos observations.
Il y a d'autres facteurs limitatifs. Vous l'avez mentionné, Yvan Dutille, entre autres, la puissance des radiotélescopes. Mais il y a du changement dans l'air. Vous l'avez dit, il y a d'autres générations qui s'en viennent.
Oui, le grand projet international actuellement en radioastronomie, ce qu'on appelle le Square Kilometer Array. Et l'objectif, c'est de fabriquer une grande antenne d'un kilomètre carré de superficie. On n'a pas encore choisi le site, mais ça va être en Afrique du Sud ou en Australie, un endroit où on a beaucoup de place. Et l'idée, c'est de combiner des millions de petites antennes ensemble pour avoir une sensibilité extrême et aussi la capacité d'observer une grande partie du ciel simultanément. Donc, c'est un grand projet international qui, d'ici une dizaine d'années, devrait être opérationnel normalement. On ferait toute la radioastronomie normale. En fait, c'est la justification du radiotélescope. Ce n'est pas ce qu'on pourrait dire un programme vraiment agressif de la recherche d'intelligence extraterrestre active. La prochaine génération d'observation devrait utiliser des télescopes dédiés, dont il y en a un en Californie, le Allen Telescope Array, qui ne ferait que de la recherche d'intelligence extraterrestre comme mission de base. Donc, ça serait vraiment intéressant comme capacité de recherche, là.
Merci beaucoup, Yvan Dutille.
Merci beaucoup, à la prochaine.
Sophie, André Blondin interviewait Yvan Dutille, qui est membre du groupe de travail sur la recherche d'intelligence extraterrestre de l'Académie internationale d'astronautique. Il est aussi chercheur associé à la chaire de recherche industrielle en technologie de l'énergie et en efficacité énergétique de l'École de technologie supérieure. Ça, c'est à Montréal. Alors, vous avez peut-être vous aussi des questions. Nous pouvons les capter sans radio-télescope, absolument simplement avec un téléphone. Nous appelez. De la région de Montréal, vous composez le 514-597-6166. D'ailleurs, au pays, vous faites le 1-800-752-9050. Puis il y a toujours le courriel aussi, lumière@radio-canada.ca. Et maintenant, la chronique des années-lumière avec cette semaine Rachel Légère, directrice du Biodôme de Montréal. Bonjour Rachel.
Bonjour Yannick.
Vous allez nous parler d'un petit animal pas toujours très aimé, n'est-ce pas, surtout en ville. Un animal qu'on appelle l'écureuil. L'écureuil gris. Pas aimé?
Ben, pas aimé. Parfois pas aimé, parfois trop aimé.
Oui.
Donc, il y a un petit peu d'ambivalence ici.
Alors, présentons l'animal.
Donc, l'animal, pour faire un portrait, c'est que cet animal-là fait partie d'une assez grande famille des sciuridés, qui comprend aussi les chiens de prairie, les tamias, les marmottes. Donc, il y a
famille
beaucoup...
nombreuses.
Famille nombreuse et il y a plusieurs espèces d'écureuils. Mais au Québec, on parle surtout de deux espèces, l'écureuil gris, qui est plus gros, et l'écureuil roux. Mais l'écureuil roux préfère les conifères, donc on le retrouve moins en ville. Par contre, on le voit quand même, il est plus petit, mais plus agressif. L'écureuil gris, il y en a peur quand
Et celui qu'on voit vraiment partout en ville, c'est donc l'écureuil gris, j'imagine.
Oui, on parle de l'écureuil gris, mais tous les écureuils gris ne sont pas gris.
Ah oui? ça commence bien.
Il y a comme deux pigmentations. Il y a les écureuils gris et vers le nord, comme ici à Montréal, on a des écureuils gris qui sont en effet noirs. Mm-hmm. Mais plus on s'en va vers le sud des États-Unis, des noirs, il n'y en a plus. C'est vraiment la même espèce. Plusieurs personnes
c'est
pensent
la même
que...
espèce?
Oui, on confond souvent à croire que c'est deux espèces, mais c'est une espèce. Et l'écureuil noir, on le retrouve plus au nord du Québec, au nord de l'Ontario. Et on croit que la pigmentation a peut-être un lien avec le climat plus froid.
Une adaptation?
Une adaptation. C'est pas prouvé, mais on croit que comme il n'y en a pas du tout, s'il fait plus chaud, il y aura probablement. Et il y a des albinos aussi qui sont tout blancs. Et c'est un animal qui a une diète assez large. C'est sûr qu'il préfère les noix, mais en ville, il peut s'adapter et manger à peu près n'importe quoi.
Donc, y compris de très bons aliments.
Oui, il va aller se promener dans les jardins, et les frondes de fougères, les crocus et tout ça, ou encore les poubelles qu'il peut déchiqueter pour aller chercher ce qu'il y a, ce qui crée souvent des désagréments au niveau des
Donc,
citadins.
Un animal omnivore, on dirait?
Oui, 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 omnivore. Et sa diète principale, ce sont les noix, mais vraiment, il n'est pas difficile, il va manger à peu près n'importe quoi.
Alors, l'hiver... Est-ce qu'il fait dort, j'imagine, comme tous
non,
les...
Non, il n'hiberne pas.
On voit beaucoup en ville, mais à la campagne...
C'est un animal qui n'hiberne pas, donc il a besoin de trouver de la nourriture tous les jours pour trouver sa source d'énergie. Mm-hmm. L'hiver, il va souvent déterrer des noix qu'il aura emmagasinées et enterrées à l'automne.
À l'automne, oui.
Et là, il a un odorat très développé, ce qui fait qu'il peut sentir où sont les noix, il peut les retrouver sous la neige.
Éventuellement, oui.
Mais souvent, comme il ne les retrouve pas, il doit manger... c'est là qu'il va se retrouver dans les poubelles et à chercher de la nourriture, à chercher des aussi les restes mm-hmm. que les humains laissent à traîner, le fast-food et tout ça. Donc, le problème qu'on a en ville, c'est parce qu'il y en a trop. Mais s'il mm-hmm. y en a trop, c'est de notre faute.
C'est de notre faute? Oui. Seulement? Exclusivement? Ben, principalement?
Principalement. C'est qu'il faut dire que des espèces opportunistes comme les goélands, les pigeons, les écureuils,
oui.
ils vont avoir des portées plus importantes quand ils sont bien nourris. Et comme on les nourrit beaucoup, il y a eu des études qui démontrent que dans le parc du Mont-Royal, dans le parc La Fontaine, on retrouverait 25 fois plus d'écureuils qu'en forêt.
25 fois plus.
Ce qui fait que à un moment donné, c'est de la compétition.
Et ils se reproduisent beaucoup.
Ils se reproduisent beaucoup. Ils peuvent mm-hmm. avoir des portées jusqu'à 8, 9 petits deux fois par année. Mm-hmm. Donc, ça en fait de l'écureuil.
Donc, dans les villes surpopulation d'écureuils, avec tous les dégâts et tous les inconvénients que ça peut représenter quand même.
Oui, mais il y a aussi un bon rôle à l'écureuil. Il n'y a pas qu'un côté nuisible.
Je savais que vous alliez plaider pour cette petite bête-là.
Donc, c'est une oie qu'il va enterrer, qu'il va laisser sous la neige à l'automne, souvent, ils ne les retrouvent pas. Mm-hmm. Et ça va aider à la régénération, la reforestation finalement de plusieurs arbres, les érables, les chênes,
mais
le noyer.
La nécessité de la reforestation en ville est quand même...
Ben, en ville, peut-être moins, mais à la campagne, et en forêt, oui, il a un rôle écologique assez important. Mm-hmm. Et c'est aussi une source de nourriture pour plusieurs prédateurs, surtout les petits écureuils naissants, là. Mm-hmm. Les oiseaux de proie, les oiseaux de proie, les renards, les ratons laveurs se régalent de petits écureuils. Donc, il y a un rôle,
Écologique, ouais. C'est ça.
Présentement, c'est le déséquilibre dans les populations qui fait en sorte qu'à Montréal, surtout dans les grandes villes, ça devient une nuisance.
Donc,
souvent.
Attention à ne pas nourrir les écureuils, au fond, c'est ça?
Oui. Et cet écureuil-là est tellement en surpopulation que là, on a commencé à l'introduire ailleurs, dont en Europe. Et là, il est en train de causer des problèmes à un écureuil local en Europe qui est l'écureuil roux. Mm-hmm. Et cet écureuil-là se retrouve en voie de disparition.
L'écureuil roux européen.
Européen, à cause de notre écureuil gris qui est rendu là-bas, qui est plus gros et qui même transporte un virus qui est fatal pour l'écureuil roux.
C'est de la guerre biologique, ça, oui.
Il a envahi son territoire, il compétitionne pour sa nourriture. Donc là, les Européens ne sont pas très contents de notre... Donc, ils font des recensements.
Et ça fait longtemps que l'écureuil gris est en Europe?
Depuis la fin des années 1940 qu'il aurait été introduit.
Un bon
demi-siècle,
mais
il prolifère de façon très importante et plus il prolifère, plus l'écureuil roux prend du recul. Donc là encore, on voit qu'une espèce introduite dans un environnement qui n'est pas le sien peut faire causer du tort à des espèces locales, donc des espèces envahissantes qui viennent prendre le territoire.
Alors, en conclusion, Rachel Légère, vous avez dit que l'écureuil gris, notre écureuil gris, était parfois très embêtant, mais aussi qu'il avait un rôle écologique à jouer dans certaines circonstances. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On l'absout ou on le condamne?
Ben, on essaie de faire comprendre aux gens que les pigeons et les écureuils, tout ça, c'est toujours difficile de dire à un petit enfant, mais non, il ne faut pas donner trop de nourriture.
Non,
il est capable
ça.
De se débrouiller tout seul. Mais les gens ont le cœur trop tendre et pensent que cet animal-là va mourir l'hiver avec la neige. Mais non, il y a tout ce qu'il faut pour survivre. Mais avec notre grand cœur tendre, il est difficile de faire comprendre aux gens de ne pas le nourrir. Parce que oui, quand il y en a juste assez, c'est parfait. Les gens l'aiment. C'est un bel animal, très social. Mais quand il y en a trop, ça devient une nuisance. Mais une nuisance à cause de nous.
Merci beaucoup, Rachel Légère.
Ça me fait plaisir.
Et voilà, c'est la fin de la première heure des Années Lumière. Alors, avant d'aller au bulletin de nouvelles, je vous invite à ne pas manquer ce soir à la télé de Radio-Canada, 18h30, de l'émission Découverte. Entre autres sujets, la bourse du carbone et les acouphènes. Cela dit, vous restez avec nous à la radio après les nouvelles, la deuxième heure des Années Lumière. Les Années Lumière, deuxième heure. deuxième partie de votre magazine d'actualité de culture scientifique. Yannick Villieu, toujours l'équipe pour vous le présenter. Alors, on commence la deuxième heure avec Sophie André Blondin et l'écriture. L'écriture qui pourrait être beaucoup, 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 beaucoup plus ancienne que prévu. Après le petit journal de la science, c'est le premier volet de deux sur les soins palliatifs pédiatriques. Et pour terminer, Chantal Srivastava reçoit l'auteur de la semaine. Elle s'appelle Florence Piron et elle a co-dirigé un collectif intitulé « Aux sciences, citoyens » publié par l'Institut du Nouveau Monde aux presses de l'Université de Montréal. C'était écrit depuis 30 000 ans sur les murs des caves ornées fréquentées par nos très lointains ancêtres en Europe. À côté des impressionnantes fresques qui représentent des chevaux, des aurochs ou même des rhinocéros, eh bien, il y a des petits signes, indices géométriques d'un code qui reste à déchiffrer. Une étudiante de la Colombie-Britannique a recensé ces signes, en a recoupé les occurrences, et ses travaux font l'objet d'un article dans la dernière édition d'un magazine de vulgarisation, New Scientist. Sophie André.
Il s'agit de Geneviève von Petzinger qui a consacré sa maîtrise à recenser tous les signes non figuratifs qu'on trouve sur les murs des grottes. Elle a passé au crible 170 grottes ornées de France. Elle a trouvé dans une grande majorité d'entre elles, dans 146 grottes, des treillis, des points, des spirales, à côté de ces fameux grands dessins des grands animaux qui attirent l'attention. Ces signes ont été dessinés sur une très longue période, entre 35 000 et 10 000 ans avant notre ère. Geneviève von Petzinger a mis les instruments informatiques à contribution pour étudier leur distribution dans l'espace, leur distribution dans le temps et les recoupements dans leurs agencements. Geneviève von Petzinger de l'Université de Victoria en Colombie-Britannique.
À ce point, j'ai trouvé 26 signes distincts. Je sais que c'est le même numéro que l'alphabet.
Alors, oui, 26 mais, lettres, 26 mais, symboles.
Non, ouais. non, l'alphabet, non, il n'y avait pas d'alphabet de l'anglais ou français il y a 30 000 ans. Mais à ce point, ça c'est ce que j'ai trouvé dans la France. Et quand je commence ma doctorate à regarder les autres pays, je pense que peut-être ce numéro changera. Mais les signes que j'ai trouvés à le moment sont les choses comme les cercles, les ovales, les rectangles. Il y a aussi des signes qui ressemblent un peu à un oiseau, mais pas un oiseau comme on pense, mais plutôt l'oiseau que les petits-enfants essayent de dessiner. Il y a quelques-uns qui sont très simples et il y a aussi des différentes sortes d'angles. Et il y a des lignes, il y a des points.
Alors, on trouve donc ces traits, ces cercles, ces triangles, des traces de mains aussi,
oui.
Des points faits avec la paume, soit des mains négatives, c'est-à-dire la couleur autour des doigts qu'on voit. Alors, ce que vous avez fait, c'est une banque, la première banque de données qui permet de voir où sont ces signes dans les grottes, où sont ces signes dans leur distribution dans le temps et quels sont les agencements des signes aussi.
Oui, ça m'a pris 4 mois de créer cette banque, mais c'était un effort qui est beaucoup de résultats qui sont très excitants. Quand j'ai commencé, j'avais 3 questions que j'ai demandées. La première était, est-ce qu'il y a des signes qu'on peut voir pour le total période, alors de 20 000 ans? Et est-ce qu'il y a des signes qu'on peut voir géographiquement? Est-ce qu'il y a des signes qui sont dans les différentes places dans le pays de la France. Alors, est-ce qu'ils sont partout? Est-ce qu'on peut regarder pour le mouvement et comment ils sont placés dans les différentes périodes, à les différentes places? Et la troisième question que j'avais était si on voit qu'est-ce que c'était le... Tous les chercheurs, quand j'ai commencé, pensaient que les signes, comme les autres sortes d'images, comme les animaux et les personnes, ont commencé très simples, peut-être un peu primitifs dans le commencement de cette période. Alors, à 30 000 ans, on pensais qu'on verrait des premiers essais de faire cette sorte d'art. Et puis, la pensée, c'était que peut-être 10 000 ans plus tard, ils ont la chance de devenir plus complexes quand les personnes utilisent. Alors, c'est le sens de l'évolution, oui. Mais qu'est-ce que j'ai trouvé? C'était complètement différent. J'ai trouvé que la majorité de les signes étaient présents il y a 30 000 ans. C'est 70 % de les signes sont déjà présents 30 000 ans. Peut-être ils ont même emmené une partie de ces signes avec eux de l'Afrique.
Des signes, donc, un code qui aurait un sens, Sophie-André Blondin, est-ce qu'on parle d'une écriture?
L'écriture. On estime généralement que l'écriture est apparue il y a seulement 5000 ans,
oui,
mais
oui.
Dans le cas de ces dessins, on parle de 30 000 ans. Peut-être avant, si nos ancêtres utilisaient déjà des signes codifiés, des formes abstraites pour communiquer lorsqu'ils ont quitté l'Afrique. Mais de là à parler d'écriture, il y a un pas que Geneviève von Petzinger ne franchit pas.
Je pense que le mot écriture est probablement beaucoup trop fort. Il n'y avait pas de grammaire. Je ne pense pas nécessairement qu'il écrivait quelque chose comme François est une bison, quelque chose comme ça sur le mur. Je ne pense pas que c'est quelque chose comme ça qu'ils ont écrit. Je pense que plutôt, qu'est-ce qu'on voit, c'est le premier essai de créer un symbole qui représente dans le monde physical un concept abstrait que peut-être on ne peut pas représenter. Si vous regardez la grotte et vous voyez un cheval qui passe par la grotte, c'est assez facile de regarder le mur, voir un cheval sur le mur et dire « Ah, je sais qu'est-ce que c'est. C'est facile, c'est dans le vrai monde. » Mais comment est-ce que vous représentez quelque chose comme le mort ou amour ou des concepts qui... C'est très important pour les humains et on sait qu'ils avaient la capacité mentale pour avoir ces concepts. Ils avaient des mêmes cerveaux que nous. Mais comment est-ce que vous représentez quelque chose comme ça? Comment est-ce que vous pouvez communiquer avec les autres? Et je pense que ça, c'est probablement qu'est-ce qu'on trouve. C'est ce premier essai à faire ça. Et une autre chose qui est très importante, et c'était une partie de ma recherche que je suis très excitée d'avoir trouvée, c'est que avec les signes et les choses symboliques et géométriques, c'est beaucoup plus que juste avoir quelqu'un qui dit « Ah, maintenant je vais utiliser une X et ça représentait l'amour » ou quelque chose comme ça. C'est aussi très important que vous devrez avoir un groupe de personnes qui sait qu'est-ce que cette signe veut dire. Si vous n'avez pas ça, ce n'est pas une chance de communiquer. Alors, le même signe retrouve encore et encore et encore et ça me dit que les autres personnes doivent savoir qu'est-ce que ça représente.
Un jour, on va vouloir comprendre ce que ça voulait dire, ce qui est peut-être pas écrit, mais ce qui est évoqué par ces signes.
Oh, ça serait magnifique. Mais je dois dire, sans avoir une machine de temps pour nous laisser aller à cette période, je pense que ça serait peut-être très difficile. Moi, qu'est-ce que j'ai regardé est la représentation ou comprendre qu'est-ce qu'il veut dire indirectement. Si on peut voir le même signe en usage pour 20 000 ans dans un grand espace, je ne dois pas savoir directement qu'est-ce que ça veut dire pour savoir que c'était important pour les personnes qui utilisaient.
Oui, bien sûr. Geneviève von Petzinger de l'Université Victoria en Colombie-Britannique, dont les travaux sur la classification des signes abstraits dessinés dans les grottes ajoutent vraiment, Sophie-André, de précieuses informations sur la communication préhistorique.
Oui, je rappelle qu'il s'agit de signes répertoriés qui couvrent une période de 35 000 à 10 000 ans avant notre ère. Des signes qu'on retrouve dans la vaste majorité des grottes ornées en France.
Quand même, oui, hein.
Et Jean-Claude connaît bien ces grottes, entre autres celle de Chauvet, une grotte à laquelle il a consacré un livre qui sort d'ailleurs à la fin mars en édition de poche les intéressés. Il s'agit d'un préhistorien. Il connaît aussi ces signes abstraits. Il les a déjà vus. On peut même les voir dans son livre. Et il apprécie le nouvel éclairage que le travail de classification qui vient d'être fait pose sur leur signification. Mais il ne croit pas qu'il s'agisse là d'une écriture. Et pour en faire la démonstration, il nous amène, vous serez content, à l'église.
Qu'est-ce qui se cache derrière? Il y a certainement des symboles. Il ne faisait pas ça au hasard. Pas plus qu'il ne dessinait un bison, un cheval ou un bouquetin au hasard. Mais derrière ces dessins, il y avait des symboles. Mais derrière les animaux aussi, il y avait des symboles. quand il dessinait un cheval, c'était pas simplement pour le plaisir de dessiner un cheval. Ce cheval jouait certainement un rôle dans leurs mythes, dans leurs histoires sacrées, comme animal chargé de puissance surnaturelle, etc. Et pour les signes, il en allait certainement de même. Alors, est-ce qu'il peut s'agir d'une écriture ? Personnellement, je ne le crois pas. Pas au sens où nous entendons l'écriture actuellement. Parce que pour qu'il y ait une écriture, il faut d'une part des signes, certes, mais il faut qu'il y ait une syntaxe, c'est-à-dire qu'il soit utilisé toujours un peu de la même manière et d'une syntaxe assez complexe. C'est ça une écriture. Or ça, on ne le constate pas dans les grottes. On s'aperçoit qu'il y a des liaisons et le travail de Geneviève von Pettinger est excellent là-dessus parce qu'elle montre certaines liaisons qui n'avaient pas été remarquées jusqu'à présent parce qu'elle a fait un travail considérable de banque de données sur les signes. Bon, donc qu'il y ait des liaisons, qu'il y ait derrière des histoires, oui. Mais est-ce que je vais vous prendre un exemple. Vous prenez par exemple dans une église chrétienne une croix. Une croix, ça représente toute une histoire. Mais on ne peut pas dire qu'une croix soit un élément d'écriture. Et c'est un symbole. Alors, que les signes soient des symboles, oui, ça c'est certain. Que ce soit des éléments d'une écriture, je ne crois pas. Même s'ils sont assez souvent en liaison avec tel autre, tel type de signe ou tel type d'animal. Je vous prends le même exemple. Hein. Dans une église, vous allez avoir la croix. Vous allez avoir des personnages sur la croix. Et cette croix, elle va être souvent associée au même type de personnage. Par exemple, à une femme qui tient un bébé, la Vierge Marie. Par exemple, à des petits bébés qui ont des ailes, des angelots. Si on ne connaît pas du tout la civilisation chrétienne, on peut faire des statistiques en disant, ben oui, tiens, c'est associé tant de fois avec des angelots, c'est associé tant de fois avec une femme qui a un bébé, c'est associé tant de fois avec monsieur Barbu, etc. Vous voyez, ça ne veut pas dire que ce soit une écriture.
Et oui, bonne remarque. Jean Clotte, donc, qui fut conservateur du patrimoine et responsable de l'étude scientifique de la grotte Chauvet, en France.
Et pour un expert d'ici, Daniel Arsenault, les signes répertoriés peuvent quand même être assimilés à une forme très rudimentaire d'écriture. On est avant la syntaxe, mais dans un code qui a un sens pour les gens qui le produisent ou qui le voient. Daniel Arsenault dirige à l'Université du Québec à Montréal le Centre d'études interuniversitaires sur les lettres, les arts et les traditions.
Avec les dernières recherches, on peut constater finalement que il y a peut-être une démarche de symbolisation et d'abstraction qui va au-delà de l'art rupestre, et c'est pour ça qu'on parle peut-être d'une forme initiale d'écriture. Ce qu'on observait, d'une part, c'est qu'il y a des motifs assez simples, ça peut être des tracés linéaires, ça peut être des croix, ça peut être des spirales, quoique la spirale est beaucoup moins courante, il y a des motifs en treillis. Par contre, il y avait des motifs un peu plus complexes qu'on savait être, finalement, la représentation partielle d'un animal, par exemple. Ça pouvait être la corne d'un rhinocéros, on va juste représenter la corne, et ça, on parle à ce moment-là d'une représentation métonymique, donc la partie pour le tout. C'est peut-être une démarche, finalement, qui a conduit à faire des signes abstraits aussi pour envoyer à quelque chose d'autre que le simple motif et signifier quelque chose. Donc, on peut parler à ce moment-là d'un véritable code. Et je dirais aussi que l'agencement de certains motifs, mais parfois aussi un même motif qui va être reproduit en paire, ça renvoie peut-être justement à un code significatif pour les gens qui le produisaient. De là à lire maintenant ce que ça veut dire, on est loin de là.
Là, l'écriture, ou en tout cas l'abstraction, c'est une volonté de communiquer.
Oui, c'est une volonté de communiquer. On va se poser des questions. Communiquer avec qui? Est-ce que c'est avec d'autres qui font partie de la même communauté? Est-ce que ça veut dire aussi communiquer avec d'autres qui ne sont pas là? Ça peut être les ancêtres, ça peut être des esprits, ou avec ceux qui vont venir après, qu'on sait qu'ils vont venir après, donc d'autres générations. Ça va être une question qu'on va se poser. Pour nous, c'est comme recevoir... J'aime faire la comparaison avec le fameux satellite qu'on a envoyé, Voyager, où on avait demandé à des scientifiques d'inscrire des éléments qui révélaient finalement les cultures humaines. Alors, pour les préhistoriens, pour les archéologues, ce genre de témoignage aussi ancien, c'est comme une capsule qu'on recevrait d'un autre temps. C'est pas dans l'espace cette fois-ci, mais c'est dans le temps.
un beau déballage donc en perspective pour cette capsule, entre guillemets. Donc, c'était l'anthropologue Daniel Arsenault du Centre d'études interuniversitaires sur les lettres, les arts et les traditions à l'Université du Québec à Montréal.
Et le travail de Geneviève von Petzinger se poursuit, lui, dans d'autres grottes. Le vocabulaire des signes abstraits qui ont survécu 10, 20, 30 000 ans va fort probablement s'enrichir. Reste à savoir si on en décodera un jour quelques bribes.
Bonne question. Merci beaucoup, Sophie André.
Merci.
Le Programme des Nations Unies pour l'environnement vient de décerner le prix Sasakawa 2009-2010 d'une valeur de 200 000 $ à deux projets qui proposent des solutions vertes pour lutter contre les changements climatiques. L'organisation Trees, Water and People a reçu 100 000 $ pour la distribution de 35 000 poêles moins polluants en Amérique centrale et en Haïti. Ces nouveaux systèmes de cuisson consomment de 50 à 70 % moins de bois que les poêles ordinaire. L'autre 100 000 $ a été décerné au système d'éclairage Nuru. Nuru qui veut dire lumière en langue swahili. Au cœur du système Nuru, un générateur à pédales qui permet de recharger 5 lampes à diodes électroluminescentes en pédalant durant seulement 20 minutes. Une fois chargées, les lampes ont une autonomie de 37 heures. Nuru est utilisé dans des zones sans électricité en Inde, au Kenya et au Rwanda. Grâce à ce prix, Nuru espère pouvoir éclairer bientôt 200 000 ménages.
On sait déjà qu'il existe une véritable île de déchets de plastique dans l'océan Pacifique. Des chercheurs américains ont maintenant identifié le même phénomène dans l'Atlantique Nord. Ils ont sillonné les mers pendant deux décennies et plongé leurs filets plus de 6000 fois à la recherche de débris au large des États-Unis et dans les Caraïbes. Et leur pêche a été en quelque sorte miraculeuse. Dans une région située entre la latitude de Mexico et celle de Washington, ils ont découvert des concentrations particulièrement élevés de petits résidus de plastique. Jusqu'à 200 000 débris au kilomètre carré, l'équivalent de ce qui a déjà été observé dans le Pacifique. Difficile toutefois de mesurer la taille de ce dépotoir flottant. La plupart des déchets sont petits, 1 cm en moyenne, mais ils inquiètent les scientifiques qui craignent pour la santé des écosystèmes, notamment des oiseaux qui risquent de s'en nourrir.
Plus c'est froid, plus c'est gros. C'est la loi de Bergman qu'il stipule. Cette loi en biologie qui veut que chez les espèces, les animaux qui vivent dans les régions plus froides deviennent plus gros. Traditionnellement, depuis 163 ans, on croyait que cette disparité de taille était attribuable à la température corporelle. Mais il faudrait plutôt regarder du côté de la nourriture, selon des travaux publiés dans la revue American Naturalist. Trois chercheurs ont nourri des criquets, des sauterelles et des escargots de mer avec des plantes prélevées à différentes latitudes. Les insectes ont mieux profité lorsqu'ils étaient nourris de plantes provenant de latitudes plus élevées. Chuan Kai-ho et son équipe en ont conclu que les plantes qui poussent sous des latitudes plus élevées fournissent une meilleure nourriture. Plus c'est froid, plus c'est bon, plus c'est gros, pourra-t-on dorénavant résumer.
C'est un sujet, un univers difficile qui renvoie à une expression qu'on aurait presque du mal à prononcer, soins palliatifs pédiatriques, autrement dit des soins de fin de vie pour des patients qui ont à peine commencé la leur. Le premier étonnement, c'est qu'on ait tant besoin de ces soins spécialisés.
Au Québec, entre 0 et 18 ans, il y a 1000 enfants et adolescents qui décèdent par année en moyenne. Qu'on en ait besoin, je ne sais pas. On n'existait pas il y a 10 ans. Je pense qu'il y avait des gens qui faisaient ça très très bien déjà. Il ne faut pas croire qu'on a tout inventé, surtout pas. Ce qu'on a voulu faire à Sainte-Justine, c'est d'harmoniser un petit peu les soins pour que chaque enfant, qui est suivie à Sainte-Justine et à l'extérieur de Sainte-Justine par nous, puisse recevoir à peu près les mêmes soins palliatifs.
Nago Imbert est psychologue et il dirige au Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine à Montréal l'unité de consultation en soins palliatifs pédiatriques. Une unité dont l'un des moindres défis n'est pas de devoir s'adresser à des patients aussi différents qu'un bébé naissant, qu'un enfant de 4 ou 5 ans ou qu'un adolescent de 15-16 ans.
On a des bébés, là ils sont non communicants, donc c'est toute l'évaluation de la souffrance, la douleur par exemple, très important, qui est une spécificité en elle-même. Et puis effectivement, si vous avez affaire à un adolescent, ben, si vous imaginez simplement ce qu'on voit dans les journaux ou les films qu'ils regardent, c'est le culte du corps, c'est le culte de la performance. Hein. Et puis là, ben, les traitements, la maladie, les maganes, et ils peuvent vivre ça de façon très, très différente. À se perdre, je dirais, dans la course folle de la vie, à vivre ça à 100% en prenant des risques incroyables ou en se... je dirais, se repliant complètement sur eux-mêmes pour que plus personne ne les voit. Alors, il y a plusieurs façons de vivre, il n'y a pas une façon à nous de nous adapter d'ailleurs aux patients.
Quand on parle d'enfants qui décèdent, on pense toujours au cancer. On imagine que c'est surtout des petits-enfants du cancer que vous avez en soins palliatifs. C'est la réalité?
Alors écoutez, les progrès ont été énormes ces 20 dernières années. Hein. Si je parle de la leucémie, on guérit 80% des leucémies actuellement. Donc là, il y a eu des gros efforts, des grands succès. Malheureusement, il y a encore tout un type de cancer qu'on n'arrive pas à vaincre. Alors c'est une grande partie, évidemment, de notre clientèle, entre guillemets. Mais si je regarde les statistiques de l'année passée, c'est 50-50. 50% c'est autre. Ça va d'un enfant en néonatologie, ça va d'un enfant aux soins intensifs, ça va de toutes les maladies neurodégénératives, ça va de la prise en charge à l'hébergement de mari-enfant aussi. Donc vous voyez que c'est très éclectique.
Très varié. Et est-ce qu'il y a des cas, je sais que c'est pas, chaque cas est particulier, hein, j'imagine, mais il y a des cas quand même qui doivent être plus difficiles que d'autres. Et est-ce qu'il y a des casse-têtes plus compliqués que d'autres quand on fait des soins palliatifs pour enfants?
Notre grande peur, écoutez, on ne peut pas planifier, heureusement qu'on ne peut pas planifier, excusez-moi, la mort, mais ce qu'on sait, c'est que notre spécificité, c'est aussi de s'occuper de l'entourage. Hein, les parents, les grands-parents, les frères et sœurs font partie complètement de notre prise en charge des soins palliatifs. On sait, la mort d'un enfant, c'est toujours atroce, il ne faut pas dire autre chose. Par contre, elle peut être plus atroce que d'autres, et on sait que quand ça se passe mal, et notamment dans les derniers jours et dernières heures, les parents ont beaucoup plus de difficultés au niveau de ce qu'on appelle le deuil. Ils ne feront jamais le deuil de leur enfant, mais en tout cas de survivre à ça, que si ça s'est très mal passé. Je pense à un enfant qui meurt en hémorragie ou en convulsion ou en détresse respiratoire. Donc ça, on essaye de faire au mieux pour que l'enfant puisse s'endormir dans les meilleures conditions possibles.
Les patients des soins palliatifs pédiatriques sont donc des enfants, des adolescents, mais beaucoup leurs parents qu'il faut approcher le plus tôt possible pour les accompagner parfois pendant de longs mois. Nago Imbert.
Les parents nous disent toujours qu'il y a trois chocs. Il y a le choc du diagnostic, il y a le choc de la récidive, qui souvent, évidemment je parle d'hémato-oncologie là, qui est pire que le diagnostic, qui nous dit ça. Et le troisième choc, c'est le passage en soins palliatifs. Il est clair qu'il n'y a aucun papa et aucune maman qui va vous dire qu'il était content de me voir. L'important, c'est qu'ils nous connaissent. Parce que quand ça ira mal, peut-être qu'on pourra les aider. C'est sûr que c'est jamais une entrée en matière facile. Je pense, d'abord, on ne doit pas s'occuper de tous les enfants qui sont en phase palliative, je le dis bien. Je pense qu'on doit être à disposition, et ça pour tout le Québec. Il y a des équipes au Children, à Sherbrooke et à Québec, et on travaille beaucoup, nous, à l'extérieur. La moitié de nos patients sont à l'extérieur de Sainte-Justine, avec les CLSC, les médecins de région, les pédiatres. Je crois que c'est très important de transmettre ce qu'on peut de notre expertise.
Comme médecin, qu'est-ce qui est le plus difficile avec ces petits patients-là dont vous savez qu'ils vont mourir? Est-ce que c'est le contrôle de la douleur? Est-ce que c'est l'aide à cette idée que oui, je vais mourir quand ils seront un peu plus grands, évidemment. Quand ils ont 2 ans, ils ne doivent pas s'en rendre compte. Mais à 7, 8, 10 ans, 12 ans, ils doivent s'en rendre compte. Qu'est-ce qui est le plus difficile?
Alors moi, je suis un spécialiste en psychologie médicale. Et donc, il est clair que la souffrance, c'est quelque chose qui m'intéresse le plus. C'est la relation que les parents ont, la souffrance des parents. C'est ce qui, pour moi, est le plus dur. je dirais, à digérer ou à accepter ou à côtoyer.
Et est-ce qu'on sait quoi faire pour ça ou est-ce que vous y allez un petit peu, je dirais, sur l'intuition ou...
Ben, disons que je vous dirais qu'une chose, c'est que ça ne sera jamais beau. Je vous disais tout à l'heure, si ça se passe le mieux possible, c'est la seule chose sur laquelle on peut être satisfait de nous-mêmes et pas lâcher, c'est-à-dire revoir les parents. Je veux dire, c'est pas fini. Et c'est toute la différence aussi peut-être avec l'adulte, c'est pas fini notre travail. C'est revoir les parents, c'est revoir les frères et sœurs, c'est s'assurer qu'ils ne sont pas tout seuls dans un coin à faire un deuil impossible. C'est aussi ça notre spécificité.
Alors cette semaine, dans ce premier de deux volets de mon dossier sur les soins palliatifs pédiatriques, je vais parler surtout de médecine du corps. En premier lieu, bien sûr, de traitement de la douleur. Et cela d'abord avec le pédiatre et hémato-oncologue Michel Duval du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine à Montréal.
On a énormément progressé dans les 25 dernières années sur la douleur en général, puis la douleur des enfants en particulier. On n'arrive pas à contrôler la douleur dans la minute, là, mais dans la très grande majorité des cas, puis les études qui ont été faites le démontrent, on arrive à contrôler au moins la douleur à un niveau qui est tolérable. Là, on ne vise plus à faire disparaître la douleur, mais on s'entend avec l'enfant, en tout cas quand il est en âge de comprendre, c'est-à-dire à partir de 5-6 ans, on s'entend avec l'enfant sur un niveau qui serait correct de douleur, et puis je dirais qu'on y arrive 8 à 9 fois sur 10, peut-être pas en une journée, parfois pas en une semaine, mais qu'on finit par y arriver. On a beaucoup, beaucoup progressé là-dessus.
Et les techniques de contrôle de la douleur sont les mêmes que chez les adultes ?
Oui, ce sont les mêmes médicaments. La morphine reste le médicament majeur, celui qu'on va utiliser, je dirais, 9 fois sur 10. Les techniques sont aussi les mêmes. On a de plus en plus recours à l'enfant à ce qu'on appelle l'analgésie autocontrôlée, c'est-à-dire que c'est l'enfant lui-même avec une petite pompe, par exemple, qui va régler le taux de morphine dans son sang pour obtenir l'effet dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire ramener la douleur à un seuil tolérable. Et puis, ce qu'on voit apparaître de plus en plus, parce que dans les 10 dernières années, on a l'impression que l'effet de la morphine et tous ces médicaments-là plafonnent. Ce qu'on voit apparaître de plus en plus, ce sont des techniques qu'on appelle d'imagerie ou de relaxation, des techniques qui font appel à des techniques plus psychologiques là, et qui permettent d'être un plus énorme aux médicaments. Et les deux ensemble, moi je dirais qu'on arrive dans la très grande majorité des cas, encore une fois, pas en un jour ou deux, là, mais à contrôler la douleur des enfants, on a fait énormément de progrès.
Le docteur Bruno Vincent est un spécialiste de la médecine de la douleur à l'hôpital Robert Debré à Paris. Ses progrès, il les note lui aussi bien sûr, mais traiter la douleur chez l'enfant n'est jamais facile.
C'est assez complexe lorsqu'on le fait de temps en temps, lorsqu'on n'est pas habitué à l'approche de l'enfant. Ça l'est moins lorsqu'on a une pratique quotidienne auprès des enfants. Et ça l'est d'autant moins que la complexité semble plus légère lorsqu'on utilise les bons outils, notamment pour évaluer déjà la douleur de l'enfant. Parce qu'il est bien évident que sans évaluation de la douleur de l'enfant, qu'il soit petit ou grand, on peut difficilement comprendre, aller vers lui et prendre en charge sa douleur.
Mais alors évaluer la douleur chez un enfant de 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, ça ne doit pas être facile quand même. Ça, il n'y a pas d'outils, avant même le langage.
Au contraire, il y a des outils qui existent et qui sont des échelles observationnelles qui permettent d'observer le comportement de l'enfant, que ce soit sa mimique, son cri, la façon dont il se protège, la façon dont il réagit avec l'environnement, avec ses parents, avec ses jouets, avec son doudou. Tout ça nous permet d'évaluer tous les aspects de la douleur en général et en particulier chez l'enfant petit.
Alors, il y a peut-être 15, 20 ans, 25 ans ou 30 ans, la douleur, c'est quelque chose dont la médecine ne s'occupait pas. C'était pareil chez l'enfant, j'imagine. Mmh. Aujourd'hui, est-ce que vous diriez que on s'occupe bien de la douleur chez l'enfant?
J'aurais tendance à dire qu'on s'en occupe de mieux en mieux. Je pense que les choses ont beaucoup évolué, les personnes qui abordent les enfants sont plus sensibles au sujet. On voit avec les nouveaux étudiants qui arrivent, il y a une culture de la douleur et des soins palliatifs qui sont maintenant beaucoup plus enseignés qu'il y a quelques dizaines d'années. Et c'est vrai qu'on peut-être que l'enfant a bénéficié, même si ça reste une des populations à risque à cause des barrières de la langue, de l'expression de la douleur. Je pense que les gens sont peut-être encore plus sensibilisés chez l'enfant, ceux qui travaillent avec lui, que dans le monde adulte.
Mais vous dites c'est pas encore parfait. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'on ne sait pas faire encore, d'après vous?
Non, rien n'est parfait, parce que la culture de la douleur, comme vous disiez, est une culture assez récente. La prise en charge de la douleur est relativement récente. Il y a encore 20-25 ans, on pensait que l'enfant ne souffrait pas. L'enfant ne pouvait pas avoir mal parce qu'il était trop petit, que ses connexions neurologiques n'étaient pas établies. Or, on sait dès maintenant que dès l'âge gestationnel de 24 semaines dans le ventre de la mère, l'enfant peut commencer à souffrir. Et ce qu'on le sait aussi, c'est que même après sa naissance, quelques semaines après sa naissance, se forment seulement les produits qui sont capables d'être synthétisés à l'intérieur du corps de l'enfant, qui préviennent et qui peuvent lui permettre de faire diminuer naturellement ses douleurs.
Et il n'y a pas que la douleur dont il faut s'occuper chez ces petits patients. D'autres symptômes physiques doivent être pris en charge, explique de nouveau le docteur Michel Duval du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine.
Dans notre situation d'un enfant dont on sait qu'il va mourir de sa maladie, le but, c'est pas de supprimer les symptômes, le but, c'est de supprimer la souffrance que les symptômes créent. Donc, c'est ça la question. Avec le même symptôme, certains enfants vont en souffrir et d'autres pas. Celui qui n'en souffre pas, on va pas le traiter. Celui qui en souffre, il faut le traiter. On peut faire une liste, la fatigue, la difficulté à respirer, la constipation, ce qu'on appelle le râle des agonisants, c'est-à-dire cette respiration particulière qu'ont les gens en fin de vie qui sont peut-être pas dérangeant pour l'enfant, mais peut-être énormément pour l'entourage. Puis quelques autres, par exemple, celui qui me paraît le plus important, c'est la fatigue. Alors maintenant, on va me dire, la fatigue, c'est normal d'être fatigué quand on va mourir. Ben, on disait ça il y a 25 ans, de la douleur. C'est normal d'avoir mal quand on va mourir. Est-ce que c'est normal qu'un enfant soit fatigué? Puis est-ce que ça lui permet de se réaliser pleinement dans les jours qui lui restent à vivre? Ça, c'est une question qui est, je pense, très importante. Et actuellement, on voit que, par exemple, la fatigue, la grande majorité des enfants en fin de vie éprouvent de la fatigue, et la grande majorité d'entre eux déclarent souffrir de cette fatigue, et les parents disent que les enfants souffrent de la fatigue. Et quand on regarde les études qui ont été faites il y a 10 ans, puis celles qui sont faites maintenant, alors qu'on a progressé sur la difficulté à respirer, qu'on a progressé sur tous les autres symptômes, on n'a absolument pas progressé sur la fatigue, par exemple.
Parce qu'on comprend mal le phénomène, parce que médicalement c'est compliqué à expliquer. Pourquoi ?
Parce qu'en fait, on ne sait même pas ce que c'est. C'est-à-dire que chez l'adulte, il y a beaucoup d'études qui ont déconstruit la fatigue, qui essaient de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans la notion de fatigue, mais il n'y a même pas d'études chez l'enfant. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça signifie être fatigué pour un enfant. Donc par exemple, tant qu'on n'a pas compris ce que ça signifie, on ne va pas pouvoir calquer les traitements qui sont développés chez l'adulte, on ne va pas pouvoir les envoyer chez l'enfant. Donc nous, par exemple, on a débuté une très grande recherche à Sainte-Justine, où on va repartir de zéro et on va essayer de comprendre, en interrogeant un grand nombre d'enfants, qu'est-ce que ça signifie pour eux d'être fatigués. Pas des enfants fatigués normalement après un match, là, mais fatigués par leur maladie. On va repartir à zéro pour comprendre ça. Et on en est à peu près, on en était dans la douleur il y a 25 ans, comprendre ce que ça signifie. Après, on sera capable de la mesurer. Une fois qu'on sera capable de la mesurer, on sera capable de faire des traitements, puis de juger si ces traitements sont efficaces. Puis un jour, dans 10-15 ans, les infirmières, auprès du patient, seront capables de mesurer, de dire il a la fatigue à 9 sur 10, je lui donne le médicament X, il est descendu à 4, c'est correct. Un travail de 15 ans qu'on est en train de débuter, par exemple.
Il y a donc ce symptôme, la fatigue. Vous avez cité d'autres, la difficulté de respirer, j'imagine le problème d'alimentation aussi, problème de digestion, vous l'avez évoqué, problème peut-être de confusion aussi. Est-ce que dans tous ces domaines-là, pour tous ces symptômes-là, on a une médecine scientifiquement bien développée, ou si on est encore un petit peu à observer puis à pas trop savoir quoi faire?
Scientifiquement, on n'en est pas très loin. Le seul symptôme qui a vraiment fait l'objet d'études scientifiques très larges, c'est la douleur. Les autres, on a très peu d'études scientifiques. On a très peu de manières de savoir si tel ou tel médicament, telle ou telle intervention est efficace, parce qu'en fait, on n'a pas les moyens de la mesurer. Et quand on ne peut pas mesurer quelque chose, on ne peut pas savoir si ça a varié avant et après le traitement. Donc, pour tous ces symptômes, la plupart d'entre eux, c'est le même problème que celui de la fatigue, là. C'est-à-dire qu'il faut d'abord être capable de les mesurer. Pour être capable de les mesurer, il faut comprendre ce que ça signifie chez un enfant. Nous, on s'attaque à la fatigue parce que c'est celui qui nous paraît le plus dérangeant pour un enfant en fin de vie, qui ne peut plus jouer, qui ne peut plus avoir des activités sociales avec ses copains à cause de ça. Mais c'est vrai pour tous les symptômes.
C'était le docteur Michel Duval, pédiatre et hémato-oncologue au Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine à Montréal, et auparavant de ses collègues Nago Imbert, qui dirige l'unité de consultation en soins palliatifs pédiatriques au même hôpital, et aussi Bruno Vincent, spécialiste en médecine de la douleur à l'hôpital Robert-Debré à Paris. La semaine prochaine, deuxième volet de ce dossier sur les soins palliatifs pédiatriques avec des questions troublantes, par exemple celle des soins palliatifs pédiatriques prénatales.
Dominique Lapointe, le réalisateur des Années-Lumière. Je vous rappelle nos numéros de téléphone pour nous laisser vos questions de science. De Montréal, vous composez le 514-597-6166, 597-6166. De l'extérieur de la région métropolitaine, un numéro sans frais, le 1-800-752-9050, 752-9050. Et soyez patient, une bonne question trouve toujours une bonne réponse.
Aux sciences, citoyens. Alors, aux sciences, citoyens, c'est l'appel que lance Florence Piron, l'auteur que nous accueillons cette semaine. Florence Piron est professeure au département d'information et de communication de l'Université Laval à Québec. C'est une spécialiste de l'éthique en sciences et de la participation citoyenne. Avec Léonore Pillon, elle a co-dirigé la publication d'un ouvrage qui s'intitule Aux sciences, citoyens, expériences et méthodes de consultation sur les enjeux scientifiques de notre temps. Le livre décrit 25 expériences de consultation réalisées au Québec et ailleurs dans le monde. Il a été publié par l'Institut du Nouveau Monde aux presses de l'Université de Montréal. À l'invitation de Chantal Srivastava, Florence Piron est allée en studio à Québec. Elle explique tout d'abord en quoi consiste cet appel à la science citoyenne.
Il ne s'agit pas du tout de dire que les citoyens doivent remplacer les experts ou faire la science à leur place ou leur dire quoi faire. Ce n'est pas du tout de ça dont il est question. Mais la science contemporaine a des effets majeurs sur notre vie à tous, sur la planète, sur la santé, sur l'environnement, la vie quotidienne, la gestion, etc. Elle est financée en grande partie, du moins par les impôts des citoyens. Et il est anormal, dans le fond, qu'il n'y ait pas plus de dialogue, de transparence entre la société civile et le monde scientifique. Que les scientifiques ne soient pas en dialogue avec les citoyens sur ce qu'ils font, pourquoi ils le font, sachant les impacts majeurs que ces recherches ont sur la vie des citoyens.
Florence Piron, ce qu'il faut peut-être dire aussi, c'est que les citoyens sont peut-être plus au fait de ce que peut faire la science à cause de problèmes dont ils ont été victimes ou qu'ils ont pu observer. Et là, je parle entre autres de crises récentes, la vache folle, le sang contaminé, Tchernobyl, Bhopal. C'est comme si la science devenait une source de méfiance également qui amenait les citoyens à vouloir s'impliquer davantage.
Absolument. Il y a la science promettait, et dans certains cas continue de le promettre, un monde meilleur. Or, on s'est aperçu que dans certains cas, la science était liée à toutes sortes d'intérêts, surtout quand elle devient technoscience. Toutes sortes d'intérêts complexes, sociaux, politiques, économiques, qui font que des précautions n'ont pas été prises et que ça produit des conséquences humaines, sociales, politiques absolument effroyables. Alors que la confiance dans la science est fondamentale pour que la science progresse, avance, pour que les chercheurs continuent d'être financés, d'être appuyés par les citoyens, par exemple en sciences sociales. Les sciences sociales empiriques ne fonctionnent à partir d'entrevues, de rencontres avec des gens. Pour que ces gens-là continuent de participer au projet de recherche, il faut faut qu'il y ait une confiance dans la science. Et donc, les scientifiques doivent absolument dialoguer, expliquer ce qu'ils font, pourquoi ils le font, comment ils le font, et être ouverts à la participation des citoyennes à ce dialogue.
Alors, vous évoquez dans ce livre, donc, aux sciences citoyennes, différents exemples, différentes pratiques ici au Québec, au Canada et un peu partout dans le monde. On peut peut-être remonter aux origines de tout ce courant-là de la science participative, pourrait-on dire. Ça nous amène au Danemark à la fin des années 80, quand on a fait ce qu'on appelait à ce moment-là des conférences de consensus. Dans quel cadre on a développé ces pratiques-là, tout d'abord?
Alors, c'était l'Office danois d'évaluation des technologies qui s'est dit, pour évaluer la pertinence d'une nouvelle technologie, évidemment aussi pour évaluer son acceptabilité sociale, c'est-à-dire de quelle façon les citoyens pourront s'approprier des nouvelles technologies, établissons un dialogue avec des citoyens, écoutons ce qu'ils ont à dire. Donc, une conférence de consensus, c'est un groupe de personnes, de citoyens qui ne sont pas experts dans le domaine en question, qui travaillent pendant plusieurs mois, mais pas de façon continue, là, à raison de quelques fins de semaine, pour comprendre un domaine, un enjeu. Et une fois qu'ils ont été formés, donc pendant plusieurs mois, c'est une séance publique de dialogue avec des experts. Et ensuite, ils délibèrent pendant quelques heures ou peut-être une journée pour formuler des recommandations consensuelles sur l'enjeu en question. Il y a un autre cas très intéressant qui fonctionne un petit peu de la même façon, mais je trouve pour le Québec, ce serait un exemple tout à fait pertinent. C'est celui du Conseil de citoyens du NICE, National Institute for Clinical Excellence, qui est un centre d'évaluation des technologies en santé. En Angleterre, le conseil du NICE est un conseil permanent formé d'une vingtaine de citoyens, mais qui sont renouvelés régulièrement, là, tous les 3 ans. Et chaque fois qu'il y a une technologie qui est à l'essai, ils sont invités à formuler un avis. Les autorités du NICE, les dirigeants, ceux qui vont formuler les recommandations finales au gouvernement, ne sont pas obligés de tenir compte de l'avis du Conseil des citoyens. Mais en général, ce que l'évaluation de tout ça a montré, c'est qu'ils en tiennent compte et que souvent leurs recommandations sont proches de celles du Conseil des citoyens. Et que ce conseil-là, les rapports sont d'une très grande qualité, sont en ligne, consultables. Et que c'est vraiment un exemple d'une collaboration très réussie entre un organisme d'évaluation des technologies en santé et un groupe de citoyens, mais permanents, appuyés par une équipe. Là, c'est vraiment des gens qui s'engagent dans ce travail pour une période de 3 ans.
Ça doit demander, Mme Piron, énormément de ressources et de temps, parce qu'on n'a pas des experts. Les citoyens sont des experts en citoyenneté, mais pas nécessairement des experts en technologie.
Il ne faut pas voir ça, je dirais, de cette façon-là. Les citoyens ont toutes sortes de savoirs dans toutes sortes de domaines et c'est la combinaison, c'est ce que j'appelle moi l'intelligence collective. La combinaison de ces savoirs peut générer des questions extrêmement pertinentes et obliger les chercheurs, les experts à y répondre. Et donc à faire évoluer leur connaissance de cette manière-là. Je prends un exemple au hasard sur l'enfouissement des déchets nucléaires en France. Les scientifiques avaient proposé une stratégie pour enfouir les déchets nucléaires très profondément dans le sol, dans une zone un petit peu désertique, mais où il y avait quand même un peu d'agriculture. Et les agriculteurs ont réfléchi, se sont dit, c'est enfoui profondément, mais ça peut quand même remonter. Et si, dans 20 ans, on trouve une solution pour les détruire, alors qu'ils sont enfouis profondément et diffusés dans le sous-sol, on ne pourra plus les détruire. Trouver une autre solution. Et donc, avec les chercheurs, ils ont imaginé, ils ont aidé à trouver une autre solution, qui est l'enfouissement dans des roches à la surface de la Terre. Donc c'est pas de dire que les citoyens doivent devenir des experts comme le sont des personnes qui travaillent dans un domaine depuis très longtemps, qui ont une formation pointue, etc. Mais c'est de faire confiance à l'intelligence collective pour articuler des questions pertinentes qui viennent d'un autre point de vue. Là, dans le cadre que je viens de vous raconter, c'est le point de vue d'agriculteurs qui s'inquiétaient de la santé des produits qu'ils allaient récultiver. Alors, c'est cette intelligence collective qui peut bousculer les chercheurs, les faire sortir de leur laboratoire, de leur tour d'ivoire aussi, d'une certaine façon, pour les amener à progresser, à avancer, explorer peut-être des zones plus incertaines.
Dans ce livre aux sciences citoyennes, Florence Piron, vous passez en revue des méthodes de consultation sur les enjeux scientifiques qui sont utilisées dans le monde. Quel genre de bilan peut-on faire aujourd'hui de ces méthodes et de leur utilisation? Et est-ce que certaines d'entre elles sont négligées, auraient intérêt à être davantage utilisées pour mettre les citoyens et les scientifiques ensemble dans le coup?
Alors, ce qui était fascinant avec la recherche qu'on a faite pour ce livre, c'est vraiment la diversité de ces méthodes. Et la façon dont on a présenté ces méthodes dans le livre, c'est vraiment pour dire toutes les finalités sont possibles et il y a des méthodes qui répondent à chaque finalité, chaque but qu'on veut faire. Il existe par exemple des jeux de cartes qu'on peut télécharger gratuitement sur Internet et faire imprimer qui présentent toutes les facettes d'un enjeu, par exemple sur les nanotechnologies, etc. Puis on peut utiliser ces cartes pour faire une animation dans une classe. Ça coûte absolument rien, il faut juste y penser. Et ça ne demande pas du tout d'être animé par une personne experte. Le jeu est fait pour ça.
Ça s'appelle Decide, hein,
c'est ça, Decide, ouais, c'est anglophone, mais on peut télécharger tout ça en français. Il y a 8 thèmes scientifiques qu'on peut utiliser. Par ailleurs, il y a des méthodes qui permettent de mobiliser un très grand nombre de personnes dans des endroits séparés. Par exemple, bon, c'est une méthode qui a été mise au point par le groupe America Speaks, qui est un groupe, une compagnie américaine qui fait des choses extraordinaires en termes de participation citoyenne dans toutes sortes de domaines. Et ça a permis, avec le projet Meetings of Minds, de faire travailler sur la question des neurosciences des groupes de citoyens de 9 pays d'Europe différents, dans différentes langues. Alors, ils avaient à délibérer, à discuter ensemble, rencontrer des experts en utilisant des moyens technologiques sophistiqués qui les a amenés à formuler des recommandations. Donc ça, c'est des moyens, évidemment, des méthodes qui demandent de très imposants moyens financiers. Alors, du gratuit au plus cher, de l'échelle d'une salle de classe ou d'un petit groupe de discussion jusqu'à des délibérations multinationales, si on veut, tout est possible. Et à travers ça, il y a des instances comme ce fameux conseil de citoyens du NICE en santé dont je vous parlais, moi, que je verrais très facilement au Québec, lié par exemple au futur institut d'excellence clinique là, qui est en train d'être mis sur pied. Cet institut est inspiré de l'institut anglais, mais ils n'ont pas retenu le conseil de citoyens, alors que c'est une des plus grandes réussites du conseil anglais. Donc avoir un conseil de citoyens qui accompagne un institut d'excellence sur l'évaluation des technologies en santé au Québec, c'est quelque chose qui serait très faisable. Donc il y a toutes sortes de choses qui sont possibles de faire. Il s'agit d'avoir un peu d'imagination et surtout de comprendre ce que cette intelligence collective peut apporter à la science. Et d'une certaine façon aussi, c'est une responsabilité des scientifiques de contacter, d'entrer en contact, en discussion avec cette intelligence collective.
Il y a également une autre piste dont vous parlez dans ce livre, et j'aimerais qu'on se quitte en évoquant cette ouverture sur une pratique qui a vu le jour dans les Pays-Bas, les boutiques de science, Florence Piron, un projet donc qui n'est pas encore utilisé à très grande échelle ici, mais qui pourrait être également très prometteur pour permettre aux citoyens d'avoir davantage d'apport dans ce qu'est la science.
Alors, les boutiques de science, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Moi, j'essaye d'en lancer une au Québec. Tout le monde trouve ça très intéressant, mais on ne sait pas encore très bien comment faire pour la mettre sur pied. Une boutique de science, c'est donc quelque chose qui est très soutenu par la Commission européenne. C'est une sorte de guichet unique où des associations, des groupes, bon, tous ceux qui ne peuvent pas se payer des consultants, professeurs, etc., chercheurs, s'adressent. Donc, ils expriment une demande de connaissance sur un aspect de leur pratique, peu importe de ce que ça peut être. Et la boutique de science, l'équipe de la boutique de science va recruter dans les universités des étudiants pour donc répondre à la demande de connaissance par le biais tout simplement d'un travail de session ou même d'un mémoire de maîtrise ou d'un doctorat. Et donc, ça permet à la fois à l'organisme ou au groupe d'avoir des éléments de connaissance en lien avec sa demande, même si ce n'est pas exactement une réponse à sa demande. Hein. Il y a une traduction d'une demande en problème de recherche, en question de recherche. Et ça permet aussi aux étudiants de réfléchir à la pertinence de la recherche et de mieux comprendre justement que la recherche peut se faire avec les acteurs tout en étant rigoureuse et intéressante et innovante. Bon, il y a une boutique de science comme ça qui est un peu celle qui a été mon inspiration à Belfast, en Irlande du Nord. Ça fait 10 ans qu'elle existe et chaque année, il y a plus de 60 projets comme ça qui se réalisent. Ça peut être un groupe, une association de parents d'enfants qui ont la trisomie 21, qui entendent parler comme ça d'un traitement miracle. Ils veulent comprendre. Avant de s'engager, de faire la promotion, ils veulent comprendre de quoi il s'agit. Donc, ils ont demandé à la boutique de sciences de leur trouver un étudiant qui allait faire une étude critique de cette soi-disant thérapie. Ou... Et donc, ensemble, ça a permis à l'étudiant donc, de faire ce travail et l'association de mieux comprendre de quoi il s'agissait, puis à la connaissance tout court, ben de valider ou pas cette thérapie.
Et peut-être de ramener des préoccupations aussi à l'avant-scène, des préoccupations qui font pas partie de ce grand virage ici qu'on vit présentement, qui s'appelle l'économie du savoir, où l'industrie, les entreprises privées sont vraiment très, très impliquées, peut-être davantage que les citoyens.
Absolument. La science, si les citoyens ne sont pas là pour s'en occuper, la science, elle s'en va directement, de plus en plus, avec les nouvelles stratégies, les nouvelles politiques publiques gouvernementales, vers une science rentable, commercialisable. Et je suis absolument pas sûre que c'est ce que les citoyens attendent de la science.
Mais Florence Piron, je vous remercie infiniment pour cette interview. Merci beaucoup.
Merci.
Et je rappelle donc que vous êtes professeure au département d'information et de communication de l'Université Laval à Québec et que vous avez co-dirigé avec Léonore Pion la publication d'Oscience citoyens, expériences et méthodes de consultation sur les enjeux scientifiques de notre temps, qui est parue donc aux presses de l'Université de Montréal, une publication de l'Institut du Nouveau Monde. Merci Florence Piron.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Et voilà, c'est la fin de cette édition, une émission à laquelle ont participé Dominique Lapointe, Michel Potvin, Sophie-André Blondin, Gaëlle Lucia Berdou, Chantal Srivastava, Louis-André Bertrand et Rachel Légère. Pour les 30 ans et moins, n'oubliez pas la bourse Fernand Seguin, c'est Yannick Villedieu qui vous parle. À dimanche prochain pour une autre édition des Années-Lumière. Au revoir.